Merci Seigneur, je vous invite à ouvrir la Bible dans Marc chapitre 12, le verset 28. Il s'agit d'un texte qu'on connaît bien, une question qui est posée à Jésus. Et le contexte, c'est qu'il y a des pharisiens, des hommes de loi qui viennent voir le Seigneur Jésus et qui lui posent toutes sortes de questions pièges. Et Jésus, à chacune de ces questions pièges, il répond de manière incroyable. Certains ont la bouche bée, certains disent « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et en particulier, un scribe qui a vu qu'il a bien répondu à toutes ces questions lui pose une autre question, mais cette fois-ci une bonne question. Est-ce que vous savez qu'il y a des bonnes questions? Est-ce que vous aimez poser des bonnes questions au Seigneur? Des fois, on lui pose des questions, mais elles ne sont pas pertinentes. On va dire que ça comme ça. En tout cas, dans Marc chapitre 12, verset 28, on voit cette question toute simple, mais tellement importante. Et on va surtout s'intéresser à la réponse de Jésus à cette question. Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force est aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Prions le Seigneur encore, s'il vous plaît. Éternel, nous croyons qu'encore ce matin, tu désires parler à nos cœurs. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est vivante, qu'elle est efficace. Seigneur, qu'elle est capable de nous toucher, d'interpeller nos vies, Seigneur, et de nous montrer ce que nous avons besoin d'entendre, Seigneur. Alors, fais-le dans ces instants, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse être déversé dans nos cœurs dans ces instants, et que nous puissions, Seigneur, comprendre les réalités du royaume de Dieu, et que ceux qui sont loin de ce royaume, comme cet homme, Seigneur, puissent se rapprocher, entrer dans ton royaume, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. La question qui est posée à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et Jésus ne donne pas ici un commandement pour dire qu'il résume toute la loi, même si c'est un petit peu le cas. On voit que dans d'autres passages, Jésus a dit, par exemple, « Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'il te fasse ». Dans ce commandement-là, ça résume toute la loi. Mais là, il n'a pas fait ça, il n'a pas donné un autre commandement pour résumer la loi qui concerne les cinq premiers livres de la Bible. Là, il a puisé dans la loi, dans la Torah, il a puisé deux commandements qu'il a dit, c'est ça les plus grands. D'accord? Et c'était une question qui était couramment posée à l'époque. Les gens étaient intéressés de savoir lequel, des 613 commandements que Moïse avait donnés, lequel était le plus grand. Et il y avait des débats théologiques entre les pharisiens, les sadducéens, les scribes et tout ce que vous voulez. Il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place. Et c'était une question pertinente. Et ce scribe qui a posé cette question l'a fait parce qu'il voulait vraiment savoir quelle était la vie de Jésus. Il avait vu combien il avait bien répondu par rapport aux impôts, par rapport à quelqu'un qui est une femme qui a épousé plusieurs maris qui sont décédés les uns après les autres, de qui elle sera la femme dans le ciel. Et Jésus, à chaque fois, il a expliqué les choses. Il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, il dit ça à des religieux. Mais Jésus, dans la façon de répondre, Jésus, dans la façon de répondre à cette question toute simple, il l'a fait de manière à ce que ces personnes puissent comprendre véritablement ce qui était le plus important. Parce que Jésus connaissait les pharisiens, Jésus connaissait ces personnes qui lui parlaient. Quand on peut lire dans Matthieu 23, justement, ce que Jésus a pu leur dire plus tard, comment il les a repris de manière sévère, et il a en particulier, tout le chapitre 23, ça nous parle de ce que Jésus a pu leur reprocher, pour leur bien, pour qu'ils puissent changer, mais en particulier au verset 16, on voit qu'ils avaient un problème de savoir ce qui était le plus grand, ils avaient le problème de savoir ce qui était le plus important. Ils avaient une mauvaise échelle de valeurs. Et au verset 16 du chapitre 23 de Matthieu, il leur dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui filtrait le moucheron et qui avalait le chameau. J'aime cette image, dernière image, qui nous paraît tellement incroyable. Et pourtant, c'est dans la bouche du Seigneur, les gens qui étaient capables. Est-ce que ce n'est pas une preuve qu'ils avaient un problème de notion de valeur, qu'ils étaient capables de filtrer le moucheron, de couper la menthe pour donner la dîme au temple, et en même temps qu'ils ne pratiquaient pas la justice, la miséricorde, et ils n'étaient pas fidèles devant Dieu. Ils avalaient le chameau, comme l'a dit Jésus. Est-ce qu'ils n'avaient pas un problème de valeur, un problème d'estimation de ce qui était important aux yeux de Dieu ? J'imagine un instant que le scribe qui dit à son collègue « Je te promets que demain je vais venir t'aider à copier la Torah avec toi. » Et puis le gars il lui dit « Ouais, mais je sais que la dernière fois tu me l'as promis, tu n'es pas venu. »« Oui, mais cette fois-ci je te promets sur le temple que je vais venir te voir. »« Ouais, mais je ne te fais pas confiance. » Et alors il dit l'excuse extrême « Je te promets sur l'or qui est dans le temple que je vais venir. » Et « Ah bon, d'accord, si c'est sur l'or du temple, ça va. » C'est exactement ce qui se prenait place à l'époque, les gens qui croyaient que l'or dans le temple était plus important que le temple lui-même. Mais Jésus est en train de leur dire que le plus important dans toutes ces choses, c'est celui qui habite dans le temple. Le plus important, ce n'est pas l'offrande qui est sur l'autel, c'est celui qui a institué que sur un autel, on pouvait avoir l'offrande. Le plus important, finalement, c'est celui qui pardonne le péché. Vous comprenez ? Et le problème des pharisiens, c'est que face à des questions comme « Lequel est le plus grand des commandements ?» Comme ils avaient un problème de notion de valeur, ils avaient ce problème-là, ils n'étaient pas capables de savoir quelle était la volonté de Dieu. Et vous allez me dire « Oui, mais ça c'est les pharisiens. » Souvent, et moi le premier, j'ai été un peu du style à juger les pharisiens, à dire « Mais ça c'était les hommes de l'époque, ils étaient méchants, ils étaient hypocrites, aveugles, tout ce qu'on a lu. » Mais plus je me rapproche du Seigneur et plus je me rends compte que les pharisiens, c'est moi. Les pharisiens, c'est chacun de nous. Et souvent, on a des problèmes de valeur. Souvent, on a du mal à comprendre ce qui est important aux yeux de Dieu. Je vous ai fait un petit questionnaire, justement. Très facile, il n'y a pas de question piège. Quel est le plus grand ? Pour savoir quel est le plus grand. Quel est le plus grand ? L'Église ou l'Église ? L'Église, le bâtiment, quand on utilise ce mot abusif, l'Église, le bâtiment, en français, ou l'Église, les hommes et les femmes qui ont été sauvés par le Seigneur. Pourquoi est-ce que l'Église, avec un grand E, je vais dire ça comme ça, le corps de Christ est le plus grand ? Parce que nous sommes l'habitation de Dieu. Vous comprenez ? Dieu, il a dit qu'il n'était pas dans un temple fait de main d'homme. Par contre, notre vie à chacun est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'Église, avec un grand E, est la plus grande. Alors, quel est le plus grand ? Le culte du dimanche ou le culte de notre vie ? C'est des questions faciles, hein, je vous le dis. Mais vous voyez la différence ? Dans les deux cas, on parle du culte. Le culte du dimanche matin, bon, mais ça, tout le monde peut y assister, même qu'on soit au Seigneur ou pas, d'ailleurs. Mais le culte de notre vie, le fait de consacrer notre vie à servir Dieu, quel que soit ce que le Seigneur nous permet d'avoir entre nos mains. Quel est le plus grand ? L'adoration, c'est-à-dire chanter devant les hommes, ou prier le Seigneur devant les hommes, et l'adoration en esprit, en vérité, que le Seigneur demande. Et vous avez remarqué que dans la parole, c'est une des choses qui décrit ce que Dieu recherche. Dieu recherche un adorateur en esprit, en vérité. Donc on voit tout de suite que le plus grand, c'est cet adorateur-là. Bien sûr, on ne rejette pas l'adoration quand on est ensemble, on ne rejette pas le fait d'avoir un culte le dimanche matin, on ne rejette pas le bâtiment de l'église, toutes ces choses sont importantes. Mais le plus grand, le principal dans tout cela, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est sa personne à lui. Et vous avez remarqué avec moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est quelque chose qui m'a interpellé de voir la réponse de Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus commence en disant, voilà, le plus grand des commandements, c'est Dieu est un. Dieu est unique. Vous avez fait attention à ça? Avant de parler de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », avant de dire « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », il dit d'abord « l'Éternel, le Seigneur est un ». Et je crois que si nous voulons pouvoir aimer de tout notre cœur le Seigneur, si nous voulons pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes, il faut d'abord avoir cette compréhension profonde et véritable que le Seigneur est un avec tout ce que ça implique. Jésus, il aurait pu commencer directement en disant « aimez, aimez, faites les choses pour les autres, aimez votre prochain, allez servir les uns les autres, servez Dieu, etc. » Non, non, mais d'abord, réalise la mesure de la personne de Dieu. Réalise. Fais l'inverse de ce que les pharisiens faisaient. Eux, quand ils voyaient le temple, ils voyaient l'argent qui était dans le temple. Nous, quand nous voyons l'Église, nous voyons le Dieu qui est dans l'Église. Regardons, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire « Dieu est un » Parce que je crois que c'est le plus important, finalement. Le plus important ce matin dans le message. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour moi « Dieu est un » Cela signifie qu'il est incomparable. Il est l'unique Dieu, celui qui est au-dessus de tout, dont nous recevons tout et auquel nous devons tout. Ce n'est pas juste une formule qu'on dit du bout des lèvres. Vous savez que les Juifs, ils ont cette coutume de ce qu'on appelle le Shema Israël, c'est cette parole-là, de « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un », etc. Ils doivent réciter cette prière le matin en se levant, le soir en se couchant. Ils doivent réciter cette prière quand ils sont sur le chemin, quand ils sont dans leur maison. Ils doivent enseigner cette prière à leurs enfants et ils doivent même la réciter sur leur lit de mort. Quand ils voient la mort approcher, ils doivent réciter cette prière. Mais on peut facilement réciter une prière sans réfléchir au sens où on peut dire plutôt « Dieu est un, Dieu est unique, de lui je reçois tout ». Alors ça engage ma personne. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Dieu est unique, donc je développe une relation de dépendance avec lui. Imaginez un instant que vous disiez, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que je peux me passer de l'air? Vous allez me dire, c'est impossible. Est-ce que je peux me passer d'eau? C'est impossible. Est-ce que je peux me passer de Dieu? Nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Il soutient toute chose par sa personne. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu, si Dieu, pendant un instant, leur retirait le souffle, ils tomberaient morts. Ils reviendraient à la poussière. Et on ne se rend pas compte de ces choses. Même le païen qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, il subsiste sur terre seulement et simplement par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit avoir cette place dans notre cœur que personne ne peut prendre. Et cela justement signifie qu'il est irremplaçable aussi. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tout ce qui voudrait prendre sa place, c'est une idole, un faux Dieu, une pâle imitation, et ça doit être abandonné. Tout ce qui prend la place de Dieu doit être abandonné. C'est ça aussi, Dieu est un. Et quand on voit la parole, dans l'Ancien Testament en particulier, on se rend compte qu'il y a des païens qui avaient de faux dieux, des gens qui avaient des idoles, et qui, en voyant les prodiges du Seigneur, en voyant comment Dieu était puissant, ont été interpellés et ils ont commencé à confesser leur foi. Je vous donne des exemples. Vous pouvez prendre les références si vous voulez. Dans Exode 18, il y a Jéthro, le beau-père de Moïse. Il dit « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Rahab, dans Josué 2, verset 11, elle dit « C'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Naaman, cet homme qui a été guéri de sa lèpre, dans 2 Rois 5, il dit « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Des païens qui avaient des idoles, des païens qui adoraient de faux dieux, Quand ils ont été mis au contact de la puissance de Dieu, ils n'ont pu qu'exprimer cette vérité qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que véritable que le Dieu Tout-Puissant. Et quand nous voyons l'action de Dieu qui sauve, qui guérit, qui libère, est-ce que nous ne pouvons pas aussi confesser qu'il n'y a aucun autre Dieu que le Seigneur Jésus? Il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Quand on voit que ni le diable ni les démons ne peuvent être empêchés d'être soumis à Dieu, est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Jeudi, dans l'après-midi, on a prié pour une dame qui était possédée et au nom du Seigneur Jésus. Et je vous assure, moi, c'est pas souvent que ça m'est arrivé de prier pour des personnes comme ça, mais parce qu'on est venu dans le nom du Seigneur, cette dame a été délivrée. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et c'est quelque chose d'incroyable de prier pour une personne qui est possédée et qu'à un moment donné, le démon nous a parlé. Il a dit, elle est à moi, je veux la tuer. Quelque chose d'incroyable. Et moi, je crois que j'ai vraiment eu, à ce moment-là, un charisme de foi, parce que j'étais tremblant, hein. Vous pouvez vous imaginer. Mais le Seigneur Jésus m'a donné quelque chose à ce moment-là, et je lui ai dit, tu n'y en es pas à toi, c'est une créature de Dieu, laisse-la maintenant. Pourtant, je vous dis, c'est pas mon habitude de prendre autorité comme ça, mais la parole de Dieu, est-ce qu'elle ne nous le dit pas aussi? En même temps, à un moment donné, il faut dire, bon, la parole le dit, c'est comme ça que ça marche. Mais quand on voit un Dieu qui est au-dessus des démons, un Dieu qui est au-dessus des œuvres du diable, quand on voit ce Dieu-là, est-ce qu'on peut se dire, mais il a sa place en moi? Personne ne peut remplacer Dieu dans mon cœur. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Il est unique. Comme l'air que je respire, comme l'eau dont j'ai besoin pour vivre, Dieu est unique et tout ce qu'il veut me donner, c'est unique. Rien dans ce monde, c'est la prophétie, c'est ce qui a été donné, rien de ce que le monde peut me donner ne pourra remplacer ce que Dieu veut me donner ce matin en particulier. Il y a la vie de Dieu qui veut couler avec abondance pour la personne qui croit, pour la personne qui veut prendre cette parole à la lettre et dire « Oui Seigneur, je la veux, je veux goûter à ta bénédiction ». Le résultat qui se passe quand on a compris que Dieu est un avec tout ce que ça implique, c'est qu'on veut rejeter les idoles. C'est qu'on veut dire, Seigneur, prends la place qui te revient dans mon cœur. Mais on a besoin, et ce matin, peut-être c'est la prière que plusieurs doivent faire, Seigneur, je veux avoir cette compréhension. J'ai beau essayer de vous expliquer en long et en large ces choses, si vous n'avez pas une révélation par le Saint-Esprit dans votre cœur, alors que vous allez méditer ces paroles, ça ne sert à rien. Et c'est à vous. Et c'est à chacun de nous de dire, Seigneur, révèle-toi, révèle-moi qui tu es vraiment, révèle-moi le fait que tu es ce Dieu unique. Mais c'est pas le point principal n'est pas là, c'est que si Dieu est un, alors ça implique que mon cœur doit être un. Mon cœur doit être, si on peut le dire autrement, entier pour Dieu. Et c'est là qu'intervient la deuxième parole de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et alors que je réfléchissais, je priais pour ce moment, ce culte, c'est cette parole qui s'est imposée vraiment à mon cœur, qu'il fallait qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, mais que cela n'était possible que parce que Dieu était puissant, un, qu'il était Dieu. Si je suis une habitation de Dieu en esprit, et si Dieu est en moi, alors vous comprenez bien que mon cœur doit avoir cette compréhension de la présence de Dieu en moi. Mon cœur doit être tout entier à l'Éternel. Vous avez remarqué aussi que le plus grand commandement, ça ne concerne pas de faire de nombreuses prières, ça ne concerne pas d'aller à l'église, ça ne concerne pas de dire telle ou telle chose. Le plus grand commandement, ça concerne notre être intérieur. Ça concerne notre vie au-dedans. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Bien sûr, il y a des résultats à l'extérieur. Mais ça concerne d'abord notre vie à l'intérieur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force. Quand il est dit l'âme, la pensée, la force, le cœur, tout ça, ça nous parle de ce qui qualifie l'humanité. Alors, il y en a qui aiment bien mettre des séparations, trouver la différence entre le cœur et l'âme et la pensée. Et c'est vrai que c'est assez complexe quand on veut étudier ces choses, essayer de mettre une séparation. Ce matin, je voudrais pas faire ça. Je voudrais simplement insister particulièrement. Qu'est-ce que c'est le cœur ? Le cœur, c'est cet endroit dans notre vie, ce centre intérieur de notre vie où c'est qu'on prend les décisions les décisions profondes de notre vie, où on choisit soit de s'engager pour Dieu, soit de dire « Dieu, j'en veux pas ». C'est ça le cœur. L'âme, c'est un peu plus, c'est toujours à l'intérieur, mais c'est un peu plus les émotions. Alors je ne vous dis pas que c'est la vérité ultime, c'est la compréhension, c'est le sens dans lequel je voudrais qu'on aille ce matin. Peut-être vous auriez d'autres pensées, et je vous l'accorde, vous avez le droit. Mais ce matin, je voudrais insister sur ça. Le cœur, c'est cet endroit où il y a la volonté. L'âme, c'est l'endroit où il y a les émotions. Est-ce que mes émotions, elles sont soumises à Dieu? Souvent, et longtemps plutôt, j'ai prié le Seigneur et je dépendais de mes émotions. Je dépendais de mes émotions. Ce qui me contrôlait ma vie spirituelle, ce n'était pas Dieu, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était mes émotions. Et alors qu'il y a des moments où je sentais la présence de Dieu, c'était incroyable. J'avais des frissons, je ne sais pas comment vous expliquer ce qui se passait. C'était merveilleux. Là, je disais « Amen, Dieu est présent ». Et il y a des moments où je ne sentais rien. Et bien, j'avais l'impression que Dieu n'était plus là. Pourtant, la Bible elle a dit des petits versets tout simples qu'on connaît par cœur. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que ça veut dire qu'il est avec moi même quand je ne ressens rien? Et bien, heureusement, oui. Et quand je ressens quelque chose, eh bien aussi, il est avec nous tous les jours. Notre âme tout entière doit aimer le Seigneur. Notre pensée, notre faculté d'intelligence doit aimer le Seigneur aussi. Vous savez que nous ne sommes pas maîtres de toutes les pensées qui viennent en nous, vous l'avez remarqué. Il y a des fois des pensées qui surgissent, vous ne savez pas d'où elles sortent. Des pensées peut-être impures, des pensées méchantes, mais des fois des pensées de mort qui viennent, vous ne savez pas d'où ça vient. Enfin, vous pouvez vous douter. Par la qualité de la pensée, vous savez que ça vient du diable. Mais ça ne vient pas de vous, directement. Mais par contre, si on n'est pas maître de ces pensées qui surgissent en nous, on est maître de ces pensées qui peuvent rester en nous. On doit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que nous dit la parole. Et des fois, c'est difficile, des fois, il y a un combat qui est là, mais le Seigneur nous donne la force pour que nous amenions nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est aussi aimer Dieu de toute sa pensée, c'est aussi comprendre que, aussi loin que Dieu m'a montré quelque chose, je dois le faire. Des fois, on a tendance à remplir nos cœurs de messages, de prédications, d'études, et tous les matins, on lit quelque chose, et on se remplit, mais... Plus on se remplit de la parole de Dieu et des commandements de Dieu, et plus la lumière de Dieu jaillit dans notre cœur, plus il y a des choses à faire en nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus le Seigneur nous montre ce que nous devons faire, plus on a une accumulation de connaissances, plus nous sommes responsables devant Dieu de mettre en pratique ce que nous entendons. Voilà pourquoi des fois il vaut mieux connaître un verset, mais le vivre à 100%, que d'en connaître 1000 et de ne pas les vivre. C'était le cas des pharisiens. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, est-ce que nous ne sommes pas, en France en particulier, comparé à d'autres pays, sans vouloir discréditer personne, mais est-ce que nous ne ressemblons pas de plus en plus aux pharisiens? En étant remplis de connaissances, le dimanche on vient à l'église, on écoute, le dimanche après-midi peut-être on revient, on écoute encore, le soir on écoute une prédication sur internet, ou une cassette, ou peu importe, le moyen, un MP3 plutôt, pour aujourd'hui c'est plus ça, en tout cas... On se remplit. Mais est-ce qu'on met à 100% en œuvre ce que le Seigneur nous donne? Cette pensée que j'avais sur le cœur, c'est ça. Est-ce que nous faisons les choses de tout notre cœur? Parce que c'est ça qu'il est question. Aimer Dieu, finalement, de tout notre être. Aimer Dieu avec tout ce que nous sommes. Aimer Dieu de toute sa force. J'aime cette parole. Parce que celui qui est faible ce matin, ou celui qui est en pleine forme ce matin, il a la même responsabilité devant Dieu, d'aimer Dieu de toute sa force. Parce que Dieu sait, il connaît celui qui est faible, il sait quelle force il a, il sait qu'il ne pourra pas faire beaucoup de choses. Il sait par contre celui qui est plein de force, en bonne santé, etc., tout ce qu'il pourra faire, mais dans chacun des cas, il faut qu'ils aiment Dieu de toute leur force. Vous comprenez? Dieu n'est pas injuste dans ce qu'il nous demande. Dieu nous demande simplement de l'aimer avec tout ce que nous sommes. Ce commandement qu'il nous donne, ça concerne tout le monde. Ça concerne les enfants. Mais un enfant, il a une certaine force. Un bébé, c'est différent parce qu'il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Mais à quel âge ça commence? Est-ce qu'on peut donner vraiment un âge? Ça dépend des enfants. Mais à un moment donné, l'enfant, il doit choisir. Est-ce qu'il aime Dieu de toute sa petite force? Vous comprenez? Mais c'est pareil pour un homme, c'est pareil pour une femme, c'est pareil pour un vieillard, c'est pareil pour quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a très peu de temps, ou c'est pareil pour quelqu'un qui n'a beaucoup de temps parce qu'il est au chômage. Dans tous les cas, nous devons aimer Dieu de tout notre être. Comprenez ? Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, nous devons aimer Dieu de tout notre être. Et c'est ça qui compte devant le Seigneur. Je regardais dans la parole, dans Deutéronome en particulier, toutes les fois où il est demandé de faire quelque chose de tout son cœur. Et on voit qu'il y a toutes sortes de choses. Je pourrais vous citer de nombreux versets, mais je vais juste vous citer les verbes qui sont associés à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout son cœur ? On peut aimer et servir le Seigneur de tout son cœur. C'est quelque chose d'associé. Aimer, on l'a déjà dit, mais servir. Aimer et servir, ça va ensemble. Observer, garder, mettre en pratique la parole de tout son cœur, obéir de tout son cœur, se confier à Dieu de tout son cœur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. On peut croire de tout son cœur, on peut louer de tout son cœur, on peut chanter et célébrer de tout son cœur. Vous saviez toutes ces choses, mais est-ce que nous le faisons vraiment? Parce que c'est bien, encore une fois, de le savoir, d'avoir la pensée. Mais c'est encore mieux quand on le met en pratique. Il y a des choses qui empêchent le cœur d'être entier. Il faut être honnête, frères et sœurs. Il y a des choses en nous, certaines fois, des fois on est tout entier au Seigneur, mais il y a des fois notre cœur qui est partagé, qui est divisé. Ce qui divise notre cœur, c'est les idoles. L'idolâtrie, c'est servir un autre Dieu, une personne, un loisir, servir le plaisir. Il y a la Bible qui nous dit que les hommes, à la fin des temps, aimeront le plaisir plus que Dieu. Est-ce que le plaisir ne peut pas être une idole aussi ? La religiosité, servir Dieu en apparence. Est-ce que ça ne peut pas être une idole aussi, le fait de faire les choses de l'Église, mais seulement pour être vu des hommes, comme le faisaient les pharisiens ? L'activisme, justement, servir le service. C'est le service qui devient notre idole. Alors que Dieu nous demande de servir, bien sûr, mais il nous demande de le servir, lui, d'abord. Et surtout d'être... avoir ce cœur de serviteur. L'égoïsme, quand on se sert soi-même, quand on sert son bien-être, son confort. La Bible nous dit que quand, dans la Torah, encore une fois, il est question, que quand tu vois qu'il y a un pauvre dans le pays, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur. Et j'aime cette image. Il y a des images bibliques associées au cœur qui nous montrent ce qu'il ne doit pas arriver en nous. Il ne faut pas que notre cœur devienne dur quand on voit notre prochain qui est dans la misère. Et si c'est le cas, mais on est dans l'égoïsme et on a besoin que le Seigneur nous aide. La cupidité, là, la Bible dit directement ce qui est une idolâtrie. Donc, je n'ai même pas besoin de vous le dire, c'est la parole qui l'explique. Que faire dans ces situations ? Que faire quand je suis dans les idoles ? Alors on va aller dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, qui l'explique très bien. Quelques chapitres avant justement le « Écoute au Israël ». Deux chapitres avant, Deutéronome chapitre 4, il est dit ceci au verset 28. Deutéronome 4, verset 28, « Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches, comment ? De tout ton cœur et de toute ton âme. » Ça veut dire qu'il y a des fois où même quand notre cœur est divisé à cause des idoles, si je fais quelque chose de tout mon cœur, alors je peux revenir à Dieu. Cherchez l'Éternel de tout son cœur. Mais vous avez vu que ce qui est marqué, c'est de là que tu chercheras l'Éternel. C'est où là, cet endroit ? C'est l'endroit où on est dans les idoles, où on sert les dieux étrangers. Si dans le moment où je réalise que j'ai une idole dans le cœur, que de là, de tout mon cœur, de tout ce cœur qui est divisé, blessé, qui est aveuglé, je crie de tout mon cœur à l'Éternel, alors le Seigneur m'en sort. Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Que dans les moments, dans ces moments-là où on sent que quelque chose a pris le dessus dans notre vie, si on crie vers l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, alors il nous délivre. Parce qu'il l'a promis. Il y a le péché, l'idolâtrie qui brise notre cœur, mais il y a aussi l'épreuve, les conséquences des fois du péché, ou pas, qui peut briser notre vie, briser notre cœur. La parole de Dieu emploie souvent cette expression, que le cœur brisé. Qu'est-ce qui peut briser le cœur ? Tellement de choses. La peine, la crainte, l'inquiétude. Dans l'hébreu, quand quelqu'un est dans le trouble, dans la confusion, ils disent que c'est le cœur qui ramollit. Quand quelqu'un est dans le découragement, ils disent que le cœur il est en train de fondre. Si je trouve des images merveilleuses parce qu'elles montrent vraiment ce qui se passe en nous. Notre cœur qui est brisé en mille morceaux, qui fond, qui se disperse de tous les côtés, parce qu'il est dans une épreuve. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça ? Vous savez ce que le Seigneur a dit ? Qu'il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il y a encore quelque chose que nous devons faire. Dans le psaume 119, verset 58, il est dit, je vous le lis, « Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. » Psaume 119, verset 58, « Je t'implore de tout mon cœur. » Quand je suis dans l'épreuve, quand je suis au plus bas, quand j'ai l'impression que le diable a son pied sur ma tête, que je ne peux pas me relever, qu'est-ce que je dois faire quand mon cœur est en mille morceaux ? Je t'implore de tout mon cœur. De tout mon être, je crie vers l'Éternel et le Seigneur me délivre. Pourquoi est-ce que c'est important d'être tout entier ? Finalement, c'est ça l'important. Ce matin, j'aimerais que vous reteniez, c'est que vous soyez tout entier au Seigneur. Quelle que soit la situation, que vous soyez dans le péché, que vous reveniez tout entier à Dieu, que vous soyez dans l'épreuve, brisé en mille morceaux, mais que vous invoquiez le Seigneur de tout votre cœur, que vous soyez bien avec le Seigneur et que vous l'aimiez de tout votre cœur. Pourquoi c'est important d'être tout entier, pas à moitié, pas à 50%, pas à 20%? Ben imaginez un instant, je devais vous donner des situations où vous n'aimeriez pas que les gens soient à moitié. Un chirurgien qui est en train de vous opérer et qui est à moitié sûr de ce qu'il fait. Est-ce que ça vous intéresse de passer sur la table d'opération? Vous allez dire, attendez, vous êtes là pour me guérir, il faut que vous sachiez ce que vous faites. C'est important, il y a une vie entre vos mains. On est d'accord? Le maçon qui construit votre maison et qui vous dit, bon, je mets qu'une brique sur deux parce que de toute façon, dans 200 ans, votre maison n'existera plus. Qu'est-ce que vous allez lui dire? J'ai payé, j'en veux pour mon argent. Hein. On est d'accord? Alors mettez-moi les briques qu'il faut, même deux fois plus s'il faut, mais je veux une bonne maison solide. Le pilote d'avion qui n'a pas appris toutes les instructions, il connaît que la moitié des commandes dans le cockpit. Est-ce que vous allez monter avec assurance dans son avion ? On est d'accord que non. Hein ? On va lui dire, vous transportez des personnes, il y a des vies encore entre vos mains, c'est important, si vous avez des responsabilités. Pour toutes ces choses, on exige, et à juste titre, que les gens soient entiers, que les gens soient à fond, on peut dire ça de manière plus jeune, que les gens soient à 100%. Et des fois, pour Dieu, on se permet d'être que à 80, à 50%, à 10%, des fois même à 1%. Je pense à Dieu de temps en temps, mais je fais continuellement ce que j'ai envie. Frères et sœurs, est-ce que Dieu ne mérite pas qu'on le serve de tout notre cœur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il n'a pas montré, lui, un amour qui s'est donné tout entier ? Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Jésus a donné jusqu'à sa propre vie pour nous, pour nous montrer ces choses. Et le résultat, c'est que dans ce que Dieu fait, tout est parfait. Quand on voit de quelle manière Dieu nous sauve, il y a un salut parfait. Il n'y a personne qui est exempté du salut. Personne de ceux qui croient ne seront exemptés du salut. Il y a des doctrines qui circulent comme quoi il n'y a que 144 000, les 144 000 de l'Apocalypse, là, il n'y en a que 144 000 qui vont être sauvés. Mais heureusement que ce n'est pas vrai, parce qu'on est beaucoup plus que 144 000. Et l'Apocalypse nous parle aussi d'une foule innombrable qui se tient devant le trône et qui est en train d'adorer le Seigneur. C'est l'ensemble des rachetés. Et nous croyons que oui, n'importe qui sur cette terre qui croit dans le salut de Jésus-Christ peut être sauvé. Nous croyons que Dieu pardonne tous les péchés, à part bien sûr le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais quand Jésus est mort à la croix, Jean-Baptiste a vu Seigneur Jésus, qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il n'a pas rajouté « Il ôte le péché du monde sauf le mensonge, sauf tel péché. » Il ôte tout le péché du monde. Et des fois, nous, on est là et on pense que telle personne, « Ah, elle a fait ce péché, ça c'est grave. » Bien sûr qu'aux yeux humains, il y a des choses qui... Les conséquences sont différentes. Mais quand Jésus purifie le cœur, quand Jésus nous regarde, plutôt quand Dieu le Père nous regarde, il voit l'image de Jésus en nous. Il nous voit parfaitement blancs, parfaitement justifiés, parfaitement sanctifiés. Et bien sûr, il faut marcher, nous, dans cette sanctification tous les jours. Mais quand le Père nous regarde, il voit qu'il y a cette purification entière de notre vie par l'action de la croix. Est-ce que la parole, elle n'est pas à 100% juste aussi? Des fois, on trouve des gens qui sont d'accord avec 95% de la parole, mais il y a des détails qui ne sont pas d'accord. La Bible nous dit qu'elle est entièrement éprouvée, cette parole. La parole de Dieu est entièrement éprouvée. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à 100%. Quand Dieu nous aime, il le fait à 100%. Est-ce que nous allons nous permettre de dire, Seigneur, tu vois, toi tu fais les choses à 100%, mais moi, je me contente de 50 ou 80. Non, on a besoin de dire, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout ce que je suis, même si je n'ai pas beaucoup de force aujourd'hui, même si aujourd'hui je ne sais pas beaucoup parler, même si aujourd'hui j'ai une épreuve. Seigneur, je veux t'aimer de toute ma force malgré tout, parce que c'est ce que tu me commandes. Et je voudrais finir avec ce verset dans les Actes, Actes chapitre 4, verset 32, le deuxième commandement que Jésus a cité pour répondre à cette question, lequel est le plus grand des commandements? Il a dit en deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et combien je vous invite à réfléchir sur ces choses. Mais je vous invite aussi à recentrer peut-être ce matin en particulier le prochain sur le frère et la sœur qui est à côté de vous. Bien sûr, il faut aimer notre prochain, ça concerne tous les gens qui sont au dehors aussi, que Dieu permet qu'on puisse rencontrer. Mais ce matin, je voudrais insister sur le frère et la sœur qui est à côté de nous, assis dans cette église. Regardez ce qu'il est dit dans les Actes, chapitre 4, verset 32. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Et je crois que si Dieu est un, et que dans chacun de nos cœurs, nous sommes un en Dieu, alors il y a cette unité de la famille de Dieu, du corps de Christ qui est véritable, qui est naturel, qui n'est pas forcé, on fait pas des efforts pour s'aimer, mais si on est rempli de l'amour de Dieu, alors il y a quelque chose qui se passe pour mon frère et ma sœur. Et peut-être... Si ce matin j'ai quelque chose qui me sépare de mon frère ou de ma sœur, c'est peut-être temps de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans mon cœur? C'est peut-être temps de me dire, est-ce que mon cœur il est vraiment un devant Dieu, tout entier à l'éternel? Des fois on croise des gens qui pensent qu'ils sont, tout va bien pour eux, mais par contre ils ne font que critiquer, ils ne font que parler mal des gens, ils ne font que dire certaines choses mauvaises, et par contre eux tout va bien. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas en nous par rapport à notre frère, notre sœur, c'est qu'on a besoin de faire un point devant Dieu. La multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que vous n'aimeriez pas? Je sais que c'est vrai en grande partie déjà, mais que ça soit vrai à 100% dans notre Église, que tous ici présents et ceux même qui sont absents, nous soyons un seul cœur et une seule âme. Pourquoi? Parce que nous aurons compris que notre cœur doit être un avec le Seigneur déjà. Et parce qu'il est un, alors on va s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous le demande. Quand on voit ce que le Seigneur Jésus propose, la parabole qu'il donne pour celui qui... Vous savez la parabole de celui qui a une dette immense, que le maître efface toute sa dette, et quand il croise quelqu'un dans la rue qui lui donne un petit peu d'argent, il l'étrangle à moitié pour qu'il lui rende son argent. Et Jésus lui donne cette conclusion. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne son frère, comment ?» Je vous laisse deviner. « Ne pardonne son frère de tout son cœur. » Parce qu'on peut aussi pardonner de tout son cœur. Ou on peut aussi demander pardon de tout son cœur. On peut accepter de dire, Seigneur, tu vois, c'est vrai que telle personne m'a blessé, c'est vrai que telle personne a peut-être s'est mal comportée envers moi, mais je veux avoir cette unité avec toi dans mon cœur, et je sais que le non-pardon, c'est un obstacle dans ma vie qui fait que je ne peux pas être dans cette communion. Alors Seigneur, je veux demander pardon. Ou je veux aller pardonner mon frère, parce que je lui en voulais jusqu'à présent, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et il y avait de la rancœur, il y avait de l'amertume. Je commençais à dire des mauvaises paroles sur lui. Seigneur, je veux pardonner de tout mon cœur. Quel que soit le niveau où nous en sommes. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Quel que soit le niveau où nous en sommes, le Seigneur nous demande de réagir, pas à moitié, de tout notre cœur. Est-ce que nous voulons répondre à cet appel? Ça, c'est à chacun de le dire. En tout cas, Dieu est celui qui voit les cœurs. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin de se poser cette question, de savoir où c'est qu'il en est. Comment est son cœur? Est-ce que son cœur est un? Son cœur est tout entier? Quand on lit le livre des rois, les chroniques, on voit qu'il y avait des hommes, des rois qui étaient tout entiers à l'Éternel. Puis il y en a qui l'étaient qu'à moitié. Et puis il y en a qui l'étaient pas du tout. Mais dans tous les cas, le Seigneur nous demande de faire quelque chose de tout notre cœur. Même celui qui est loin du royaume de Dieu, comme ce scribe, qui était prêt mais qui n'était pas encore dans le royaume de Dieu, même celui qui est hors du royaume de Dieu, il est possible qu'il puisse faire quelque chose de tout son cœur. Un homme qui voulait être sauvé, il a dit, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Paul lui a répondu, « Crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Oui, si vous êtes encore dans le péché, si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'avez pas l'assurance d'aller au ciel, croyez de tout votre cœur et recevez le pardon de vos péchés par la suite de votre repentance. Si vous êtes dans l'idolâtrie pour telle ou telle chose qui a pris la place de Dieu dans votre vie, revenez à Dieu de tout votre cœur. Si vous êtes dans l'épreuve, dans la peine, dans le trouble, dans la difficulté, dans toutes sortes de tourments, si votre cœur est en train de fondre, de se briser en mille morceaux au-dedans de vous, ben, que chacun de ces morceaux puisse crier au Seigneur, « Seigneur, je t'invoque de tout mon cœur et je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie. » Et pour vous qui marchez avec le Seigneur déjà de tout votre cœur, servez-le aussi de tout votre cœur. Demandez au Seigneur, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Cherchez la face de Dieu. Oui, revenez dans sa présence et soyez convaincus que le Seigneur est un, le Seigneur est tout-puissant, il est irremplaçable. Rien ne peut remplacer cette présence de Dieu. Rien dans ce monde ne peut se comparer à ce que Dieu peut vous apporter. Comprenez quelle est cette position de Dieu pour vous. Comprenez la grandeur de votre Dieu ce matin et soyez transformés par sa présence. Éternel, je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour cette réponse que tu as faite à ce scribe qui nous interpelle ce matin, à t'offrir tout ce que nous sommes, à réaliser, oui, que tu es ce Dieu grand, ce Dieu unique, dans tous tes aspects, mais qui nous interpelle aussi à nous donner entièrement pour toi. Tu connais les cœurs, tu connais les contextes, tu connais, Seigneur, ceux dont nous avons besoin ce matin, chacun en particulier, et tu nous donnes le moyen d'y répondre. Et c'est vrai que nous voulons le faire, avec tout notre être, Seigneur, tu vois en particulier la personne dans l'épreuve, oui, je te demande de la visiter dans ces instants et de l'aider, oui, avec le peu de force qu'elle a dans ces instants, à crier à toi de tout son cœur. Tu vois celui qui combat avec l'idolâtrie, oui, aussi. Délivre-le et qu'il puisse chercher ta face de tout ton cœur, Seigneur, de tout son cœur, afin que tu lui donnes la délivrance, parce que tu es ce Dieu puissant, oui, qui a l'autorité sur les ténèbres, l'autorité sur le diable, l'autorité sur toutes les idoles, parce que toutes ces choses sont mortes, mais toi, tu es vivant, tu es le seul Dieu vivant, Seigneur. Et nous voulons te bénir encore dans ces instants et te louer de tout notre cœur. Amen.